dans le rétro.
Bienvenue dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
Salut à tous, bon week-end sur France Bleu. Ça fait du bien de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau voyage dans le temps. Chaque semaine, on partage ensemble un bout de chemin. Les années et les souvenirs de notre invité vont défiler dans un instant. Grand protecteur de l'environnement, il est reporter, photographe et cinéaste. Vous avez peut-être en tête ce livre, La Terre vue du ciel, avec de sublimes photos des plus beaux paysages du monde, vus d'en haut. Bonjour Yann Arthus Bertrand.
Bonjour.
Plus de 4 millions d'exemplaires vendus de ce livre. Mmh. Ça date hein, quand même, il est sorti en 1999. L'objectif, c'est vous qui définissiez ainsi à l'époque, témoigner de la beauté du monde et tenter de protéger la Terre. Pourquoi tenter de protéger la Terre et pas protéger la Terre tout court?
D'abord, c'était tenter, parce qu'il faut quand même beaucoup d'humilité. Bon, c'est pas avec un livre, il n'y a pas un livre qu'on va sauver le monde. Donc, on amène sa goutte d'eau. Même se changer soi-même, d'arrêter de prendre la voiture, d'arrêter de prendre de l'avion, d'arrêter de manger ce qui n'est pas bio. Alors, même moi, j'ai du mal à le faire. Donc, on essaye de le faire et on n'est pas parfait. Voilà, donc.
En 2019, on y arrive? Un peu mieux,
pas plus. La conscience est là, mais les actes sont pas encore là. Je pense que les jeunes qui manifestent dans la rue seront bien plus forts que nous et plus intelligents que nous.
Le but avec votre fondation aussi qui s'appelle Good Planet, c'est de placer au centre des préoccupations l'écologie. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure où on a du mal à boucler les fins de mois, à l'heure où on a parfois du mal à trouver du boulot, l'écologie ce soit une priorité pour les Français? Je me rappelle, j'avais vu il y a pas très longtemps un gilet jaune qui disait quand vous crevez la dalle, vous pensez avant tout à votre estomac. L'écologie, c'est pour l'instant un combat de riches.
D'abord, sincèrement, et je le dis avec sincérité, et je le dis, ne le prenez pas mal, mais il y a peu de gens qui meurent de faim en France. Moi qui ai un orphelinat à Brazzaville, moi qui voyage énormément, n'oublions pas que les gilets jaunes font partie des 10% des habitants du monde les plus riches. Je dis pas, et je suis d'accord avec vous, on est en train de faire un film sur les femmes en ce moment, il n'y a pas très longtemps, j'ai interrogé une femme qui était aide-soignante avec 1200 euros par mois, avec deux enfants, toute seule, en célibataire, elle m'expliquait sa galère, sa boule au ventre de ne pas pouvoir remplir son frigidaire. Il y a des gens qui galèrent, bien sûr, et bien sûr qu'on est tous avec eux de leur côté. Mais on est comme dans un pays où on ne meurt pas vraiment de faim. On a des moyens de trouver, il y a des aides énormément. Il y a des gens qui savent pas le faire, qui sont plus dans les moyens de trouver ces solutions. Mais voilà, j'ai fait une émission de télé il y a pas très longtemps avec beaucoup de gilets jaunes. Et il y a une dame, et je me disais, qu'est-ce que je fais là, quoi? On est en train de parler de problèmes de fin de mois. Et il y a une dame qui m'a dit, vous savez, c'est pas parce que moi j'ai des fins de mois difficiles que je ne mange pas bio et surtout que je ne vais pas aider. Je vais chercher mes légumes dans une AMAP. Vous voyez, parce que je sais que les paysans, ils galèrent, et ils sont une galère comme moi, donc c'est à moi de les aider. Ça m'a fait chaud au cœur de l'entendre. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les gens qui sont les vrais écolos sont les gens qui ont des revenus modestes et qui font attention. Voilà, c'est souvent les riches qui polluent le plus. Enfin, moi, c'est ce que je pense.
Yann Arthus Bertrand,
Parce que bien sûr, ils achètent beaucoup plus.
Yann Arthus Bertrand, on va commencer notre voyage dans le temps. C'est parti. Vous naissez le 13 mars 1946 à Paris. Claude et Jeanne, vos parents donneront naissance à 5 autres enfants. Famille nombreuse, famille heureuse?
Oui, famille heureuse, gâteau, très sérieuse. Un peu la caricature de la petite famille bourgeoise française. Ma mère, on a eu 6 enfants, plus que moi, parce que j'ai une petite sœur qui était morte avant moi, et c'était très important pour ma mère, donc j'aime bien la rappeler. Quand ma mère est morte, elle a demandé d'être enterrée avec cette petite fille qu'elle a connue qu'un an, et donc elle est morte assez âgée, mais toute sa vie, cette petite fille, elle l'a portée dans son cœur. Voilà, je suis content de le dire aujourd'hui. Oui, famille heureuse, compliquée parce que j'étais un gosse extrêmement turbulent, détestant l'école et détestant l'autorité. Mais à un point, même encore maintenant.
C'est vrai?
Oui. Oh, un jour, j'avais calculé avec ma mère, j'avais été dans 14 écoles. J'étais viré dans une autre école et puis j'étais viré souvent l'été parce que comme j'étais très mauvais, mettant des pensions pour rattraper, donc j'étais viré 2 fois par an.
Mais on disait quoi de vous? Vous étiez turbulent? Vous étiez grossier? Vous étiez...
J'étais tout ça.
Ah,
c'était vraiment un petit con. Tout le monde a eu dans sa vie le prof qui lui a ouvert les yeux, lui a fait aimer les maths. Et moi, j'ai pas rencontré ce prof.
Yann Arthus Bertrand, on va s'écouter un peu de musique. Justement, bah tiens, il mène pas mal d'actions en faveur de l'environnement. C'est Bono, le chanteur du groupe U2.
Voilà, il est plus que pour l'environnement, oui. Il mène beaucoup d'actions pour les dettes, la dette des pays pauvres, pour justement qu'on mette une croix dessus. Et il a la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de dirigeants. Il va à Davos, quoi. Il se sert de sa notoriété d'une belle façon.
U2, voici With or Without You sur France Bleu. Without You sur France Bleu, YouTube à l'instant.
Dans le rétro.
Bienvenue
dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
On va se télétransporter à nouveau, Yann Arthus-Bertrand. On va appuyer sur ce bouton. 1965, vous avez 19 ans, on est sur un plateau de cinéma.
Oui. Allez, moteur.
Il y a Michel Morgan, vous tournez dans le film « Dis-moi qui tu es ». Vous jouerez aussi 5 ans plus tard dans OSS 117 « Prends des vacances ». Vous vouliez être dans la lumière à cette époque?
Oui, je rêvais d'être acteur, mais c'est rigolo parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais dans le studio. J'étais parti de chez moi, j'avais 17 ans, je dormais dans les cinémas. Il y avait un cinéma qui s'appelle Cinéac aux Champs-Élysées et je rentrais par la porte de sortie le soir à 11h et on dormait dans le cinéma. Et on était réveillé le matin par les filles qui passaient l'aspirateur. Et je rêvais de faire du cinéma et l'image m'intéressait. Et je rêvais du cinéma comme acteur, hein. Je rêvais, je me voyais en haut de l'affiche. Et j'avais été au studio de Boulogne et j'avais commencé à balayer, donner un petit coup de main. Et en fin de compte, j'avais peur de rien, quoi. Puis au bout de 4-5 jours, j'étais porté des cafés. Au bout de 5 jours, on m'a mis dans la rue. Vous savez, quand on fait des tournages, pour pas que les voitures ça les ventouse, donc pour empêcher que les voitures se garent. Après, j'ai été troisième assistant. Puis un jour, dans les films que je faisais avec Pierre Calfon et Georges Chapdelaine, qui étaient les producteurs, ils m'ont dit, est-ce que tu veux faire un test pour être acteur dans un film avec Michel Morgan? J'ai dit, pourquoi pas? Et du coup, j'ai été pris. Voilà, donc je me suis retrouvé à Saint-Tropez, tournant un film avec... j'avais loué une voiture américaine, avec mes copains qui étaient venus. J'avais pété les plombs complètement. Et j'ai dépensé en un mois ce qu'a gagné mon père, gagné en un an.
Non.
Voilà, donc tout ça, il était très furieux. Et j'étais un très mauvais acteur. C'était vraiment une époque de ma vie où j'étais pas du tout sérieux, quoi. J'avais jamais travaillé vraiment les textes. J'arrivais sur le plateau, j'avais quelques mots à dire. C'était pas un vrai métier pour moi.
Vous profitiez de la vie, quoi,
voilà,
à cette époque-là.
Exactement. Et après, j'ai travaillé avec... J'ai pris des cours de théâtre à l'Odéon. Et c'est vrai, je me suis aperçu que c'était pas fait pour moi, que j'avais beaucoup de mal à apprendre le... J'étais très bon en impro, mais très mauvais dans les textes classiques.
Mais il faut faire un one-man show, sinon, du stand-up.
Ça va, j'en fais un maintenant, en ce moment, avec vous.
Vous lâchez le cinéma en tant qu'acteur, mais vous y reviendrez en tant que scénariste avec La Terre vue du ciel et en tant que réalisateur avec Home et Human. Mais donc, après avoir été acteur à cette époque, vous changez de voix et vous serez responsable du parc animalier du château de Saint-Augustin dans l'Allier. Alors, vous qui nous écoutez, peut-être que vous vous en souvenez de ce domaine, il y avait une île aux singes, il y avait des lions, il y avait des ours aussi. Il n'y a plus d'animaux, je crois, hein, depuis 2002.
Non, ça a été fermé.
Voilà, ça a été fermé, mais le château est toujours ouvert au public. Par contre, on va se télétransporter à nouveau. Nous sommes dans la savane, au Kenya. Vous avez 30 ans, vous êtes parti vous installer avec votre épouse dans la réserve du Maasai Mara. Changement de vie total. Pendant 3 ans... Vous allez étudier le comportement d'une famille de lions. Vous n'avez jamais eu envie de repartir, vous installer à l'étranger, au plus proche de la nature.
C'est un des moments les plus heureux de ma vie. Je n'en ai pas assez profité. Il y a des moments dans sa vie, j'avais 30 ans, j'étais amoureux, Anne était là avec ses deux garçons qui sont mes enfants que j'adore. J'étais vraiment bien, quoi. J'avais la vie que je rêvais en Afrique, la Land Rover. J'avais le kit complet de l'aventurier, la maison en bois qu'on avait construit, les éléphants devant la maison. Et je me dis, je n'en ai pas assez profité. Vous savez, en fin de compte, le bonheur, c'est savoir profiter de ces instants magiques où on est heureux.
Qu'est-ce qui vous empêche de retourner à cette vie?
Alors, d'abord, il se trouve que j'ai une famille, voilà, j'ai une femme qui est malade, qui a Parkinson, qui n'est pas très facile de partir. J'ai des petits-enfants, j'ai une vie installée ici. Et puis, je n'ai pas cette nostalgie. J'ai une fondation formidable. Je voyage moins qu'avant, mais on travaille sur des projets géniaux. Et c'est une époque de ma vie que j'ai adorée. Par contre, quand je suis rentré du Kenya avec mes enfants, on n'a jamais envie de travailler sur les tigres en Inde, mais c'est trop compliqué pour l'école. Voilà, un moment où il faut vraiment... Et ma femme était un peu plus stricte que moi. Et voilà, elle voulait absolument que les enfants soient scolarisés d'une façon normale. Donc, on n'a pas pu repartir, mais je suis quand même beaucoup parti. Et elle a élevé les enfants beaucoup toute seule. Donc, bravo à elle.
Vous êtes évidemment sensible à la cause animale. On pourrait parler de ça pendant des heures. Les conditions d'abattage, les espèces en voie d'extinction, les animaux aussi victimes de la pollution. Je voudrais juste avoir votre avis sur un sujet qui divise beaucoup, les ours et les loups. Qu'on a voulu réintroduire en France aujourd'hui, là c'est tombé il y a quelques jours, on dénombre 500 loups en France, on en a aperçu dans 524 communes, donc en Occitanie, dans les Vosges, aussi dans la Nièvre, le Tarn et dans la Somme. C'est un fléau pour les bergers et c'est une merveilleuse renaissance pour les assauts de défense de la nature. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est hyper compliqué.
Je suis très partagé là-dessus. José Beauvais, qui est mon copain écolo, dit qu'il faut abattre ces loups parce qu'il a eu des brebis dans le Larzac. Et j'ai un copain qui fait un film sur les loups en ce moment et qui a reçu des menaces de mort. Et il m'a dit, c'est la première fois que je reçois des menaces de mort pour un film. Dans le temps, les bergers n'avaient pas la télévision, ils restaient dehors avec leur caravane, avec leurs chiens. Il y avait quand même... C'est plus la même vie aujourd'hui. Maintenant, voir un loup sauvage, c'est un cadeau incroyable. Donc je suis très partagé là-dessus. J'aimerais voir des loups en liberté, mais je comprends très bien que les bergers...
Mais comment on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Je sais pas. Vous savez, dans tous les pays du monde, les grands carnivores sont en danger. Moi, quand j'ai étudié les lions au Kenya, ils étaient 400 000. Aujourd'hui, ils sont 20 000. Je parle d'en Afrique. L'animal sauvage qui chasse, qui mange le bétail, dérange les êtres humains.
Yann Arthus Bertrand revient dans un instant pour la suite dans le rétro sur France Bleu. Merci d'avoir choisi France Bleu pour vous accompagner ce week-end. Notre invité aujourd'hui, c'est le photographe, réalisateur et écologiste Yann Arthus Bertrand.
Dans le rétro.
Bienvenue.
Dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
On va allumer l'autoradio.
Make our planet great again.
1er juin 2017, discours d'Emmanuel Macron suite à la décision de Donald Trump de sortir de l'accord de Paris sur le climat. Make our planet great again, rendre à notre planète sa grandeur. Vous pensez que si on fait confiance aux politiques, on est sur le bon chemin?
Vous savez, moi j'ai suivi les COP jusqu'à Cancun. Et mais j'y vais plus maintenant parce que, je vais vous donner un exemple, l'accord de Paris. Tous ces gens qui se réunissent, qui viennent en avion d'ailleurs du monde entier, alors qu'on pourrait le faire en vidéoconférence pour parler. Imaginez que dans cet accord, il n'y a pas le mot énergie fossile, il n'y a pas le mot charbon, il n'y a pas le mot pétrole. Si on l'avait mis dans l'accord, les pays producteurs n'auraient pas signé. Alors on fait une réunion pour parler de la réduction des énergies fossiles et on ne met pas le mot dedans. C'est comme si on voulait combattre la drogue sans vouloir détruire les champs de pavots. Et il faudrait réduire absolument l'extraction du pétrole. Et malheureusement, il ne peut pas avoir d'accords internationaux parce que chaque pays est libre de faire ce qu'il a envie chez soi.
Mais ça veut dire qu'on est mal barré alors si on veut faire confiance à nos hommes politiques parce qu'on a l'impression que c'est aussi eux qui peuvent changer les choses au-delà de nous, ce qu'on peut faire.
Je crois que la seule personne qui peut changer les choses, c'est toi et moi aujourd'hui. C'est chacun de soi peut changer. Je ne crois absolument pas aux hommes politiques parce qu'on est en vie en démocratie, que l'homme politique nous ressemble. On a vraiment, je répète...
Oui, mais il peut agir à une plus grande échelle aussi, notamment auprès des grosses sociétés.
Mais aujourd'hui, l'homme politique est paralysé par le point de croissance et par les emplois.
Par les lobbies aussi.
Regardez. Alors moi, je me fais chaque fois attaquer là-dessus, mais démolir. Bien sûr qu'il y a des lobbies. Il y a des lobbies sur la cigarette, il y a des lobbies sur les pesticides, bien sûr. Mais... personne nous oblige.
Mais oui, mais alors, les gens qui travaillent,
je suis d'accord avec
kilomètres
vous,
mais de chez eux, qui ont accepter, besoin d'une voiture pour aller
accepter,
bosser.
Il faut accepter que quand on va bosser, qu'on pollue un peu, et c'est normal. Mais il y a des choses qu'on ne peut ne pas faire. Il ne faut pas être radical. Il y a des gens qui ont besoin de la bagnole pour travailler, et c'est normal. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture électrique. Peut-être qu'il faudrait plus de subventions. Je sais pas la solution. Il n'y a pas assez de transports en commun. J'ai pas. Et en même temps, il y a une usine qui va fermer bientôt sur le moteur diesel dans le sud de la France. Il y a des manifestations pour qu'on ne ferme pas l'usine. Il y a une centrale à charbon qui doit fermer. Je crois qu'il y a 800 emplois en jeu. J'ai entendu dire qu'il y a des énormes manifestations pour qu'on ne ferme pas cette centrale au charbon, alors qu'on sait que c'est polluant. Voilà, on est en train de détruire la vie sur Terre. Et quand les scientifiques vous parlent de la sixième extinction, ce n'est pas quelque chose à 3-4 générations, c'est à 1 ou 2 générations. Ça veut dire que mes petits-enfants connaîtront un monde difficile. Si en 2100, il y a 3 ou 4 degrés en plus, le monde n'est plus vivable. Et c'est ce qui est en train de se passer si on n'arrête pas d'émettre des énergies fossiles. C'est ça qui est incroyable. On dépend tous de la croissance ici. Donc je n'ai pas la solution.
Est-ce que vous pensez, à l'échelle nationale, que l'État doit imposer le changement quitte à passer par la contrainte? Il y a eu...
Ça ne marche plus.
Ouais, il y a eu le cas, par exemple, de la taxe carburant. C'est ce qui a quand même déclenché la colère des Gilets jaunes il y a quelques temps. Le gouvernement qui a dit que cette augmentation, c'était en faveur de la transition écologique. C'est très mal passé,
mais
ça, quand même.
On ne peut pas taxer le pétrole. Je ne sais plus à combien il est taxé, 50-60% par l'État, et en rajouter en plus pour le carbone. C'est la chose qui ne va pas. L'État en veut toujours plus. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Je ne pense pas que c'est la bonne solution.
On va regarder dans le pare-soleil, Yann Arthus Bertrand, allez-y, il est juste devant vous.
C'est où le pare-soleil?
Juste en face.
C'est ça que vous appelez un pare-soleil.
Gros budget, émise un gros budget.
C'est un papier blanc, il y a marqué pare-soleil dessus.
Oh, balancez pas nos petits secrets, vous de la radio. Allez-y, regardez. C'est une carte postale de Notre-Dame de Paris. Il y a eu beaucoup de critiques à l'égard des donateurs pour reconstruire Notre-Dame. C'est de la com, c'est pour payer moins d'impôts. Il y a ceux aussi qui déplorent qu'on arrive à débloquer des centaines de millions d'euros en quelques heures pour un monument, mais qu'on est incapable de le faire pour sauver la planète. Vous en pensez quoi?
Je pense que d'abord, la planète, il fait toujours aussi beau, la Terre est toujours aussi belle, et on n'a pas ressenti encore. Si la planète était dans l'état de Notre-Dame, je pense qu'on se bougerait le cul, ça c'est sûr.
Mais pourtant, elle est dans un sale état quand même.
Mais on ne le voit pas.
On ne le voit pas, mais on le sait, vous êtes là pour nous en parler, on voit de plus en plus d'images.
Le savoir, ce n'est pas le ressentir, ce n'est pas la même chose. Mais vous savez, quand il y a un tsunami, et qu'il y a des millions de morts, des milliers de morts, l'argent arrive. Quand il y a une catastrophe qu'on voit, qu'on ressent. Mais aujourd'hui, cette catastrophe, on ne la ressent pas. La glace qui fond en Antarctique, tout le monde s'en fout. Les sécheresses. Alors quand il y a un incendie hein, aux États-Unis, que ça brûle beaucoup plus, c'est beaucoup plus sec. C'est les assurances qui vont payer. Aujourd'hui, on n'est pas dans un état de catastrophe. Voilà, on est dans un état de catastrophe annoncée.
On n'est pas assez dans la merde, en fait, pour pouvoir réagir.
Exactement, exactement. Je répète, si quand la Terre ressemblera à Notre-Dame aujourd'hui, on se bougera, c'est évident.
On attend qu'il soit trop tard, en fait.
Mais je crois que c'est dans la nature de l'homme. C'est pas marrant, notre discussion, là. Mmh. Ça, c'est plutôt pessimiste, mais je pense qu'il est beaucoup trop tard pour être pessimiste. Beaucoup trop tard et qu'on a besoin d'action, de s'engager, on a besoin d'y croire. Et de toute façon, il n'y a pas... Rien d'autre à faire que d'essayer, quoi.
Si on n'a pas des millions pour aider la planète, nous, on fait quoi alors? Là, maintenant, concrètement. Déjà, on fait attention à notre consommation de viande.
La nourriture, c'est quelque chose qu'on fait trois fois par jour.
Ouais.
Faut arrêter de toujours payer le prix le moins cher. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont, ces moyens. Faut arrêter de cette course au prix le moins cher. Alors, on peut manger de la viande, mais faut que les animaux, alors moi, c'est très personnel, mais je pense que les animaux ont une âme, ils souffrent comme nous et qu'on doit les respecter. J'ai envie de manger de la viande des animaux qui ont été, alors c'est un peu couillon ce que je vais dire, mais aimés. Tant qu'ils ont été élevés, et qu'ils soient tués correctement, et les manger avec respect, qu'ils ne soient pas morts pour rien. C'est ce que je dis à mes petits-enfants, quand ils ne veulent pas finir leur viande, je leur dis, ces animaux sont morts pour vous, vous devez les respecter et finir votre assiette.
Et ça passe aussi donc évidemment par l'éducation. On peut donc organiser une petite sortie, pourquoi pas en famille, avec les enfants, les petits-enfants. À la Fondation Good Planet, vous avez l'agenda, le programme des activités et des expos sur goodplanet.org. Merci Yann Arthus-Bertrand.
Merci, je vous embrasse tous.
Merci à vous tous pour votre fidélité de plus en plus nombreux chaque week-end. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Salut.